des grèves de pétrole, enfin des problèmes de délit de distribution. Ça, c'était la grande nouvelle pendant les dernières semaines. Une nouvelle qu'on a aussi un peu, dont on a un peu parlé, c'est la fameuse libération des otages de Jolo en Indonésie, aux Philippines. Par là. Et j'essayais de, par la pensée, de me mettre un peu à leur place en me disant quels sentiments ils doivent éprouver une fois qu'ils se retrouvent vraiment libres, après qu'ils soient rentrés de Tripoli où ils doivent aller remercier le grand libérateur. Ils doivent apprécier leur liberté de mouvement d'une façon toute nouvelle. Ce qui nous semble quelque chose qui nous est dû, la possibilité de décider d'aller où nous voulons. On se plaint souvent parce qu'on a des rendez-vous, des pressions. Mais ils sont totalement libres. Et même s'ils voulaient, ils pourraient même retourner à Jolo. Il faudrait être fou, mais... Et je me disais qu'en fait, nous, en tant que chrétiens, nous sommes les hommes les plus libres du monde. Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est vrai qu'on a vu des applications dans les sciences. Les hommes ont étudié la gravité, la force de portance. Sustenance, being carried in the air, buoyancy. Et de ce fait, parce que nous connaissons cette vérité, nous avons pu nous libérer en construisant des avions. Mais ça, c'est qu'une toute petite application physique. Si nous suivons celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », alors nous sommes vraiment libres. Dans les chapitres 8 et 9 et 10 de 1 Corinthiens, Paul a parlé de cette liberté. Il a parlé de ce qu'on appelle les libertés chrétiennes. Ces libertés chrétiennes, elles ont bien été résumées par, je crois que c'était Saint François d'Assise. Qui disait « Aime Dieu et fais ce que veut ». Si nous aimons Dieu, nous sommes libres de faire n'importe quoi. Et nous savons que ce sera quelque chose qui lui plaira. Parce que ce sera en accord avec cet amour, ce sera dans l'obéissance. Et Paul parle d'un sujet pour parler de cette liberté qui nous semble très lointain. La grande question qu'on lui posait, c'est est-ce qu'on peut manger la viande qui a été sacrifiée aux idoles ? Je vous rappelle que dans les temples païens, les fidèles amenaient des offrandes en nature, de la viande notamment. C'était brûlé sur l'autel par des prêtres. Complètement, si c'était un signe de consécration totale. Partiellement, si c'était ensuite mangé par les prêtres. Et ce qui restait était même revendu au public sur le marché. Et donc c'était de la bonne viande en général qui était vendue à bas prix. Et il y avait des chrétiens qui se disaient, voilà une bonne façon de faire des économies sur le budget. Mais d'autres qui se disaient, ça a touché les idoles et vaut mieux pas y toucher. Ils avaient mauvaise conscience à consommer une telle viande. Paul a déjà apporté des réponses à ces questions, on les a vues dans les chapitres 8,
9, 10.
Et le principe de base que Paul rappelait, c'est que tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que tout n'est pas bon pour les autres. Et il reprenait tous mes permis. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, je peux faire n'importe quoi, mais je ne veux pas faire quelque chose qui me fasse du mal, qui m'asservisse, qui me rende esclave du péché, par exemple. Et c'est pour ça qu'il dirait aux otages qui viennent d'être libérés, ne retournez pas vous faire mettre en esclavage, prisonnier à Jolo. Aujourd'hui, nous allons voir dans le chapitre 10, au verset 23, il dira tout est permis, mais tout n'est pas utile. Encore une fois, tout n'est pas bon pour les autres. Il dira tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas constructif, tout ne sert pas à l'avancement du royaume de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière qu'au début du chapitre 10, il prend la nation d'Israël comme exemple. Vous savez qu'ils étaient prisonniers, esclaves en Égypte. Que Dieu les a libérés en envoyant Moïse. Mais dans leur liberté retrouvée, ils sont tombés dans différents péchés. La contestation, la rébellion.
Murmuring.
L'immoralité sexuelle.
Sexual immorality.
Et l'idolâtrie.
And idolatry.
Et ces choses les ont empêchés d'aller jusqu'en terre promise, d'entrer en terre promise.
And these things blocked them from ever entering the promised land.
Nous avons vu que c'était un grand gâchis. Il y avait des 1,5 million à 2 millions, peut-être voire 3 millions de personnes qui étaient préparées pour aller jusqu'en terre promise, et seulement 2 d'entre elles sont entrées en terre promise.
And we see what a great waste it was that there were between 1.5 million, 2 million, maybe even 3 million people that never entered the promised land. Only 2.
Josué and Caleb. And c'est une leçon pour nous.
And it's a lesson for us.
C'est ce que rappelle Paul, ce verset au chapitre 10, verset 6, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Verset 11, il dit qu'en fait, cela leur est arrivé à titre d'exemple. Et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée.
And again in verse 11, he says, these things happened
Il s'adressait aux Corinthiens de l'époque. Mais il s'adresse aussi à nous, parce que nous, la fin des siècles est encore plus arrivée pour nous que pour les Corinthiens il y a 2000 ans. Et il a solennellement mis en garde ceux qui se croient forts.
And he very seriously warns those who feel strong.
Il a dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Puis il a encouragé ceux qui se sentent faibles devant la tentation. Nous avons vu ce verset, nous avons étudié que ce verset la semaine dernière. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter.
We studied verse 13 in depth last week. No temptation has overtaken you, but such as is common to man.
Et je vous invite à lire avec moi les versets 14 à 22.
So this morning we'll read verses 14 through 22.
C'est donc page 194 dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament, à la fin de la Bible. Je lis donc. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-elles pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Sous-entendu, nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Premier conseil, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
The first advice of Paul is that they flee from idolatry.
Il les appelle ses bien-aimés. Paul a toujours cette grande tendresse pour ses frères et sœurs en Christ.
He calls them my beloved, and we see Paul's great love for his brothers and sisters in Christ.
Il nous a déjà conseillé de fuir. Il nous a dit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'inconduite, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Il dira à Timothée, fuis les passions de la jeunesse.
And he will say to Timothy later, flee youthful lust.
Et c'est vrai que devant un ennemi trop fort, la fuite, ça peut être la meilleure défense.
And it's true, in front of an enemy who is too strong, flight is perhaps a good defense.
Certes, c'est pas glorieux.
That it's not very glorious,
mais c'est sage parce que c'est efficace.
But it's wise because it's effective.
Et vous vous souvenez, la semaine dernière, dans ce verset 13, on avait dit que lorsque nous étions confrontés à la tentation, Dieu intervenait toujours avec une sortie de secours.
And remember last week when we were looking at verse 13, when we find ourselves in front of a temptation, God always provides a way of escape.
Et cette sortie de secours en grec, on a vu que ça voulait dire une sortie pour les piétons.
And this way of escape we saw in Greek means a way for the
pedestrians. Donc on peut partir en marchant.
So we can take off walking.
Mais il y a des fois où il vaut mieux partir en courant.
But there are times when it's better to take off running.
Si nous traînons trop près de la tentation, alors là, l'attraction peut être trop forte.
Then the attraction can become too strong.
Vous vous souvenez peut-être de vos cours de physique.
You may remember the courses you had in physics.
On parlait de la force de gravité de la Terre.
We talked about the force of gravity on the Earth.
Et pour ceux qui se rappellent leur maths, elle varie en fonction inverse du carré de la distance.
For those of you who study math,
ça veut dire... que si une fusée pèse un certain poids à une distance du centre de la Terre, à une distance double, elle pèsera un quart du poids. Peut-être ça ne parle pas à certains d'entre vous, mais si vous prenez des aimants,
magnets.
Si vous les tenez à distance, c'est pas difficile de les éloigner l'un de l'autre. Mais si vous les rapprochez, c'est exactement la même chose avec la tentation.
And it's the same thing with temptation.
C'est plus facile à résister à distance que lorsqu'on est le nez devant.
It's much easier to resist when we are at a distance than if we have our nose in it.
Donc il nous dit, fuyez l'idolâtrie.
So he's saying, flee from idolatry.
Et peut-être que vous dites, mais l'idolâtrie, ça, c'est pour les peuples arriérés, c'est pour les peuplades antiques. On ne fait plus des petites idoles.
We don't make idols.
On ne se met pas à genoux devant des petites statuettes.
We don't bow down to tiny statues.
Réfléchissez un instant.
But think about it for a minute.
Chaque année, qu'est-ce que sont les Oscars du cinéma?
Each year, what are the Oscars for the movies?
Les petites statuettes dorées.
They're little golden statues.
Devant lesquelles tout le monde s'agenouille.
In front of which everyone is bowing down.
En fait, une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Cette première place qui lui revient, qui doit être la sienne dans notre vie. Et bien sûr, il y a les idoles, les Oscars, les Césars et tout ça. Mais notre travail peut devenir une idole. S'il prend la place qui revient à Dieu. Si on n'a plus le temps de lui consacrer du temps, nos loisirs peuvent devenir une idole.
Our hobbies.
Nos études.
Our studies.
On va à tout prix réussir ce concours.
At any cost, we want to have that.
Et je n'ai pas le temps de prier Dieu. Ça peut être des bonnes choses, ça peut être notre famille peut devenir une idole. Toutes ces choses, Paul nous dit, partez en courant. Et il leur dit, je parle à des hommes intelligents. Et il fait aussi appel à notre intelligence. Jugeons de ce qu'il dit. Il parle de la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Il fait là allusion, bien sûr, à la Sainte Cène. Qu'il considère comme un aliment spirituel.
Which he considers a spiritual feeding,
comme une viande spirituelle, quelque part.
Like a spiritual meat.
Vous vous souvenez que Jésus, lorsqu'il avait institué la Sainte Cène, avant d'instituer la Sainte Cène, avait dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Ça, c'est Jean 6, 54. « Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et bien sûr, il ne parle pas physiquement de son corps et de son sang.
And of course, he's not making reference physically to his physical body or blood.
La meilleure preuve, c'est qu'il l'a institué lorsqu'il était encore vivant.
The best proof of this is that he instituted this activity when he was still alive.
Mais manger sa chair et boire son sang, c'est être dans une relation de communion intime avec lui.
But to eat his flesh and drink his blood is to be in a very intimate activity with him.
Et lorsque nous prenons le pain, c'est comme si nous mangions son corps.
And when we take the bread, it's as if we were eating his body.
Lorsque nous prenons la coupe, c'est un souvenir de son sang et c'est comme si nous le buvions.
And when we take the blood, the wine, the cup, it's as if we were drinking his blood, becoming a part of him.
Et dans ce passage que nous venons de lire, Paul va utiliser le mot communion ou le mot partage 4 fois.
And in this passage we just read, Paul is going to use the word communion or sharing 4 times.
Et ça, c'est un des trésors de la vie chrétienne.
And it's one of the treasures of the Christian life.
Que de pouvoir être en communion intime avec Dieu. Et d'être en communion intime, fraternelle, les uns avec les autres. Et ceux qui s'isolent de la communion chrétienne n'ont rien compris à ce que qu'était la vie chrétienne. Certains se disent avoir été tellement blessés par des frères et des sœurs qu'ils préfèrent avoir une relation personnelle et intime, isolée avec Dieu, que de retourner mettre les pieds dans une église.
Some claim to have been so hurt or wounded by brothers and sisters, Christian brothers and sisters, that they prefer to take their distance, remain isolated, than to go into a church.
Mais dans ces conditions, on ne peut pas connaître tout ce que Dieu a à nous apprendre.
But in those circumstances, we can't learn everything that God wants to teach.
Toutes les bénédictions que Dieu nous donne par la communion fraternelle.
All the blessings that God gives us through the brotherly fellowship.
Et les liens qui nous unissent, je vous vois comme de la famille.
And the bonds that join us together, I see you as family.
Verset 17, il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps.
And verse 17 says, since there is one bread, we who are many are one body.
Et la Sainte Cène, c'est une illustration de cette communion. Parce qu'à l'époque, ils comprenaient, comme dans certains pays du Moyen-Orient, de l'Orient aujourd'hui, que le fait de partager un repas ensemble, c'est quelque chose de très intime. En rompant un même pain, en prenant les morceaux de la même viande, les mêmes légumes, la même sauce, nous ingérons les mêmes éléments nutritifs, la même chose va en moi et en vous, nous devenons un peu plus semblables les uns aux autres, et en quelque sorte nous sommes unis par ce repas. C'est pour ça que nous aimons nous retrouver pour les pique-niques, pour les repas en commun. Et cette unité physique par la nourriture, on la retrouve par la proximité, par les conversations, par la communion fraternelle. Et c'était la raison pour laquelle on ne prenait pas un repas avec quelqu'un qu'on n'aimait pas. Vous vous souvenez que Paul avait dû reprendre l'apôtre Pierre qui ne voulait pas manger avec les païens devant les émissaires juifs. Et au verset 18, il rappelle que les Israélites, donc selon la chair, ceux de l'Ancien Testament, eux aussi lorsqu'ils faisaient des sacrifices, ils mangeaient la viande ou les animaux en partie qu'ils avaient offerts, et ils étaient en communion avec l'autel, c'est-à-dire en communion avec Dieu.
And in verse 18, we see that the Israelites who ate part of the meat from the sacrifices that had been offered were in communion
avec Dieu.
With God.
Et donc, il dit, est-ce que je dis que la viande sacrifiée aux, aux idoles est une mauvaise en elle-même? Ou qu'une idole est quelque chose dont il faille avoir peur? La réponse qui est implicite et qui est marquée entre parenthèses, c'est nullement. Il a déjà expliqué dans les chapitres précédents.
And he has already explained in the preceding chapters.
Et c'est vrai que la viande qui avait été sacrifiée aux idoles, elle n'avait pas d'un seul coup pris des propriétés nutritives mauvaises.
It's true that the meat that had been sacrificed to idols didn't take on a bad nutritional value.
Ou des propriétés maléfiques.
Or evil.
Et que si on en consommait, on aurait des oppressions démoniaques, etc. Ou pire. Elle était toujours aussi bonne à la consommation que le reste de la viande qu'on trouvait sur l'étalage. Et que Paul nous a dit plutôt que le chrétien avait la liberté de consommer cette viande sans problème. Sauf si ça gênait la conscience d'un autre chrétien. Et il disait, si un aliment fait tomber mon frère, cause un problème dans sa foi, alors je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. Et les idoles, est-ce qu'elles ont un pouvoir en elles-mêmes ? Nous savons que les idoles, la Bible le dit dans plusieurs passages, ce ne sont que des statuettes faites par les mains des hommes. Au psaume 135, il est dit, verset 15 et suivant, « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'écoutent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. » Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles.
15 à 18.
Mais verset 20, un élément capital est amené. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Et donc le problème, c'est que les idoles en elles-mêmes ne sont rien, mais que derrière les idoles, il y a des démons. Parlant des païens, le Deutéronome 32:17 dit « Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas Dieu ». Donc les idoles, c'est pas grave, mais c'est les démons derrière les idoles qui sont une menace pour le chrétien.
So the idols are not bad in themselves, it's the demons that are behind them.
Mais notez qu'il dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Vous ne pouvez boire la coupe des démons avec celle du Seigneur. Donc là, il implique que le danger, c'est de participer de façon plus directe à ce sacrifice de viande faite aux idoles. Et nous avons vu qu'à Corinthe, il y avait un temple d'Aphrodite avec près de 1000 prostituées mâles et femelles.
And we saw that in Corinth there was a temple to the goddess Aphrodite with many prostitutes.
Qui tous les jours allaient chercher des clients pour le temple.
That every day went out to seek clients for the temple.
Et donc ils participaient à ce sacrifice, ils buvaient la coupe des démons.
So they participated in this sacrifice and drank the cup of demons.
Et Paul est clair, vous ne pouvez pas faire les deux.
And Paul is very clear here that you cannot do both.
Jésus nous l'avait dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Paul told us that you cannot serve two masters. Either you will hate the one
and love the other one.
And love the other, or love the one and hate the other.
Dans Jean nous disait, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, 1 Jean 2,15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient. Et donc, on peut pas être à cheval sur la barrière. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église, dans le monde de Dieu. Encore une fois, le monde, c'est ce système de valeurs qui exclut Dieu, qui le rejette, qui le ridiculise. Et j'écoutais une application faite de ce principe par un pasteur de Calvary Chapel en Oregon. Et il disait, en fait, je suis libre de boire du Coca-Cola.
Said, fact, Coca-Cola.
Je peux aller en acheter au supermarché.
I can go to the supermarket and buy it.
Dans un café.
In a cafe.
Ou dans une boîte de nuit pour homosexuels et lesbiennes.
Or in a gay night club.
Où l'on consomme de la drogue.
Or where they're consuming drugs.
Et on blanchit de l'argent. Pardon.
Cleaning dirty money.
Laundering
money. Oui.
Et ce qui va compter, c'est pas le coca en lui-même, c'est l'endroit où on l'obtient.
But the problem is posed not by drinking coke, but the place where it is being consumed.
Et si le samedi soir, je vais traîner dans ce genre d'endroit malsain,
if on Saturday nights I'm wandering around in these kind of unhealthy places,
et que le dimanche matin, je me lève à grands coups de café pour venir assister au culte,
morning,
je ne peux pas espérer que Dieu bénisse mon comportement. Pourquoi?
Why?
Parce que Dieu est un Dieu jaloux.
God is a God.
Oh, il est jaloux. Je croyais qu'il n'avait pas de défauts. Non, c'est vrai que la jalousie en général chez nous, c'est un grave défaut. Nous sommes jaloux quand nous nous sentons menacés. Quand nous avons peur de perdre quelque chose. Je suis jaloux de ma femme parce que peut-être je vais la perdre. Et ma réaction, c'est la colère, c'est la méchanceté, c'est d'espionner tous ces mouvements. De regarder son courrier. De trouver son password, son mot de passe. Non. Mais Dieu, il n'est pas jaloux des autres dieux dans ce sens-là. Il a tout ce qu'il veut. Il est tout. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, donc il ne change pas, il n'a pas besoin de nouvelles choses. Mais Dieu est jaloux pour vous et pour moi.
But God is jealous of you and of me.
Il ne veut pas qu'on vous embête.
He doesn't want us to
be annoyed,
be annoyed,
messed up with, qu'on vous trompe. He doesn't want us to be cheated.
He doesn't want us to be cheated.
Il ne veut pas qu'on nous fasse du mal.
He doesn't want us to be wounded, hurt,
qu'on vous détruise.
Or destroyed.
Et pour empêcher ça, il est prêt à des actions fortes.
And to avoid this, he is ready to take extreme means.
Et plusieurs passages de la Bible disent que lorsqu'il le peuple de Dieu se livre à l'idolâtrie, ils excitent sa jalousie.
And there are several passages in the Bible that tell us when his people give themselves up to idolatry, he is very jealous.
Jacques disait dans Jacques 4, verset 4, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous ?»
In James chapter 4, verses 4 and 5, he says, « You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God ?
Lorsque nous... Ici, c'est encore plus précis. Il est jaloux de l'esprit, du Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Et une illustration, ce serait peut-être de dire je connais quelqu'un, je sais que c'est un grand malade mental. Qui est capable de tuer de sang-froid. Et je conseille à une jeune fille que je connais, surtout ne sors pas avec cet homme. Peut-être elle me dira, mais tu es jaloux ou quoi ? Non, c'est pas de la jalousie, c'est un amour protecteur qui m'anime. Et donc il dit en verset 22, est-ce qu'on veut provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Et donc là, il nous dit aussi, c'est sous-entendu, ne faites pas tomber les autres que j'aime aussi de façon jalouse, dans le bon sens. Vous vous souvenez de Jésus qui disait « Vaudrait mieux passer une meule en pierre autour du cou de quelqu'un qui ferait trébucher des enfants dans leur foi ?» Lisons la fin du chapitre 10.
Let's read the end of chapter 10.
Encore une fois, il reprend « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Quand personne ne cherche son propre intérêt, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser aucune question par motif de conscience. » Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », ne mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je prends part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, verset 11, comme je le suis moi-même de Christ. Paul dégage ici des principes de vie chrétienne. Encore une fois, parce que c'est permis, parce que c'est légal, ne veut pas dire que ce soit une bonne chose. Beaucoup de choses aujourd'hui sont légales, par exemple en France.
Many things today in France, for example, are
l'adultère, l'avortement, la pornographie, l'homosexualité, c'est maintenant légitime, légal, mais ça reste toujours détestable aux yeux de Dieu. Je peux aller à 100 km à l'heure sur l'autoroute, même quand il y a du verglas. J'ai la liberté, mais c'est stupide. Amen.
I'm free, but it's stupid.
Ça peut être dangereux, voire mortel.
It can be dangerous, even deadly.
Et donc, pour tout ce qui est ces questions dont la Bible ne donne pas une réponse en noir et blanc,
and for all those things that are questionable and the Bible doesn't define an answer to them in black and white,
vous connaissez ces sujets qui divisent parfois les chrétiens.
You know those subjects that at times divide Christians.
Est-ce qu'on peut avoir un sapin de Noël?
Can we have a Christmas tree?
Est-ce qu'on peut donner des œufs de Pâques aux enfants?
Can we give children Easter eggs?
Est-ce qu'on peut aller au cinéma?
Is going to the movies okay?
La question, c'est pas est-ce que c'est légal?
The question is not, are they legal?
La question, c'est est-ce que ça va me construire ou me détruire?
The question is, will these build me up or destroy me?
La question est-ce que ça va construire les autres ou les détruire? Et la réponse est que l'amour des autres doit l'emporter sur ma liberté. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Les commandements nouveaux de Jésus. Et verset 25, il nous dit, sous-entendu, du moment que vous n'êtes pas allé participer au sacrifice au temple, vous pouvez manger de tout ce qui se trouve au marché. Verset 26, il nous dit, bon appétit en quelque sorte. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Ça, c'est une citation du psaume 24 ou 50 ou 89. Verset 27, si vous êtes invité par un non-croyant, n'allez pas lui demander où c'est que vous avez acheté cette viande, à Carrefour ou... Non, mangez-la. Et remarquons ensemble que le chrétien est encouragé à fréquenter des non-croyants.
And we can see here that the Christian is encouraged to spend time with the unbeliever.
C'est quelque chose de naturel.
It's something very natural.
Un danger qui guette les chrétiens, c'est de se retrouver dans le ghetto chrétien.
And a danger that is always around surrounding Christians is that they would stay in a Christian ghetto.
De ne plus voir, d'abandonner leurs anciens amis non-chrétiens. Alors qu'en fait, Dieu veut que nous ne soyons pas du monde, mais dans le monde. Donc encore une fois, c'est pas mauvais d'aller dîner chez un ami non chrétien. C'est même encourager d'établir des relations personnelles qui peuvent amener un témoignage réel et sincère avec des amis. Et puis, il dit par contre, si quelqu'un pose la question, mais d'où ça vient cette viande? Est-ce que ça a été offert en sacrifice? N'en mangez pas, à cause de celui qui a des problèmes de conscience.
But he does add that if anyone poses the question, was this meat sacrificed to idols? Then you probably shouldn't eat it because it's a problem for his conscience.
C'est sans doute un autre chrétien qui est peut-être encore légaliste, qui est encore un peu faible dans sa foi, qui n'a pas encore compris toute l'étendue de notre liberté en Christ.
Undoubtedly, it's another Christian who maybe is young in their faith and who hasn't yet understood the breadth of our liberty in Christ.
Je suis libre de boire un verre de vin. Mais si à la table, je sais qu'il y a quelqu'un qui vient de subir une cure de désintoxication, mon amour pour lui va faire que je me passerai de vin. Amen. Et il dit même si j'ai rendu grâce pour le bon vin, ben, j'en prendrai pas. Et puis ce verset 31 que vous pouvez mémoriser, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et notez là encore ce petit mot tout, T-O-U-T.
And notice again the word all, A-L-L.
Il ne dit pas quoi que vous fassiez, faites 10% pour votre gloire et le reste pour la gloire de Dieu. Donc ce soit même mon métier, ma carrière,
even if it's my work, my career,
mon travail de mère au foyer,
or my work as a housewife in the home,
mon travail à l'école, à l'université,
or my work in school at the FAP,
mes activités d'église,
or my activity in the church,
mes loisirs,
my hobbies,
tout ça peut être fait pour sa gloire et doit être fait pour sa gloire. Toutes bonnes choses viennent d'en haut, du Père des Lumières. Je peux remercier Dieu quand je suis en vacances dans un bel endroit de la nature. Je peux remercier Dieu lorsque mes enfants me font pleurer de désespoir. Lorsque dans mon boulot je suis complètement submergé, je peux remercier Dieu et lui rendre la gloire. Il doit être le centre de tout dans notre vie. Et verset 32, ne soyez pas une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une occasion de chute, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Donc par votre comportement, ne faites pas douter de les autres de la réalité de Dieu, de son amour, de sa compassion, de sa persévérance. J'aime bien toujours, Paul divise l'humanité entière en groupes. Il y a les Grecs, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les païens. Les Juifs,
the Jews,
et l'Église de Dieu.
And the Church of God.
L'Église de Dieu ont retrouvé des anciens païens et des anciens Juifs.
And the Church of God is made up of previous Greeks and Jews.
Mais ça, ce verset nous montre que Dieu n'a pas fini avec le peuple juif. Que toutes les promesses pour le peuple juif, il va les accomplir à la lettre. Certains pensent qu'en fait les Juifs, parce qu'ils ont échoué dans leur mission d'annoncer Dieu à toute la terre, ont été remplacés par l'Église. C'est pas ce que nous dit Paul ici.
That's not what Paul is telling us here.
Et Paul termine en se mettant en exemple.
And Paul ends by using himself as an example.
Il se rend agréable à tous, en tout et à tous.
It will please all men in all things.
Et on peut penser que, en fait, il se compromet. Il n'est pas sincère, il est hypocrite.
And we may think that he's being a hypocrite. He's compromising here.
En fait, pas du tout. Il est comme une girouette qui s'oriente avec le vent. Lui, il s'oriente avec le vent de l'esprit, les circonstances, les gens qu'il rencontre. Et il nous dit bien que ce n'est pas pour chercher son avantage. C'est la preuve que ce n'est pas des compromis.
And he states that he is not seeking his own profit. He's not compromising.
mais il cherche l'avantage du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Et il nous dit en terminant, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. » Beaucoup de discussions sur ce problème des viandes sacrifiées aux idoles. Presque de quoi vous donner envie d'être végétarien. En fait, cette étude nous permet d'avoir des questions que nous pouvons nous poser à chaque décision que nous prenons. Des espèces de tests sur la validité d'une telle conduite ou non. En tant que chrétien, je suis libre de faire ce que je veux. Mais étant chrétien, ça veut dire que j'aime et je veux servir Dieu. Et quelques questions, ce serait, est-ce que ça va conduire à la liberté ou à l'esclavage? Est-ce que cette action va faire de moi un obstacle, une pierre d'achoppement, ou au contraire une aide pour l'autre vers Dieu? Est-ce que ça me fortifiera ou est-ce que ça va m'affaiblir? Est-ce que ça va me satisfaire ou est-ce que ça va satisfaire Dieu pour sa gloire? Est-ce que ça va aider à gagner des âmes au Seigneur? Ce sont des questions très importantes à nous poser. Et peut-être qu'une fois que vous avez été sauvé, que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous vous êtes demandé, mais pourquoi est-ce qu'il faut traîner encore ici-bas? Pourquoi pas aller directement avec lui et dans ce paradis qu'on a du mal à saisir et qui va nous dépasser de plénitude, de bonheur, d'intensité? La première chose, c'est pour glorifier Dieu. Ça, c'était le verset 31. La deuxième chose, c'est bénir les autres, ceux qui nous entourent. Et la troisième chose, c'est de répandre l'évangile. C'est pas pour que nous ayons du bon temps, que nous atteignions le rêve américain de la petite maison sur la prairie, d'une bonne retraite, d'une bonne santé. Non, Dieu nous veut entièrement. Et lorsqu'on se disait, est-ce que ma conduite, c'est quelque chose qui va aider l'autre à aller vers Dieu ou est-ce que ça va l'empêcher d'aller vers lui? Je voudrais relater une histoire qui m'avait beaucoup touché, c'était dans une église. Et c'était une église assez conservatrice,
it was a fairly conservative church,
avec la musique à l'harmonium.
With, very harmonious music.
Non,
organ.
Et le service était en cours, les gens étaient bien habillés en dimanche. Et un jeune hippie est arrivé. Les cheveux cradingues, les pieds nus,
bare feet,
des jeans sales,
dirty jeans,
Et il s'est avancé.
And he came forward,
et puis il a marché dans l'allée centrale.
And walked down the main aisle,
et il s'est assis devant le pasteur qui prêchait, par terre.
And he sat on the floor in front of the pastor who was preaching.
Et on pouvait sentir tous les gens qui disaient, mais quelqu'un va-t-il faire quelque chose? C'est insupportable cette situation.
And the tension could be felt. People were thinking, isn't anyone going to do anything? This is insupportable.
Il y a un chrétien âgé.
And there was an older Christian
qui était un ancien dans l'église.
Who was an elder in the church.
Qui lui aussi s'est avancé.
And he too came forward.
Et les gens se disaient, ah ça y est, il va l'attraper par le collet, il va le foutre à la porte.
Thinking,
il est venu s'asseoir à côté de lui. Il l'a accueilli de la sorte. Puissions-nous être aussi des gens qui accueillons les autres vers Dieu.
May we be like him in welcoming people to God.
Prions.
Let's pray.
Seigneur, merci pour ta parole.
Lord, we thank you for your word.
Merci pour sa sagesse, Seigneur.
And we thank you for its wisdom.
Merci qu'elle simplifie nos raisons de vivre. Tu veux que nous t'aimions de tout notre cœur. Que nous aimions ceux qui nous entourent. Et que nous leur parlions de toi, Seigneur. Pardonne-nous de faire de la vie une chose si compliquée qui nous dépasse, qui nous renverse parfois. Seigneur, simplifie nos vies vers toi. Merci pour la liberté que tu nous donnes, Seigneur. Peut-être parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore goûté à cette liberté. Parce qu'ils n'ont jamais mis le genou devant Jésus-Christ. Reconnu leur péché. Et leur besoin de pardon. Pour cela, je voudrais leur proposer de prier une prière en silence. Dans votre cœur, vous pouvez prier, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Seigneur, je sais que tu es ressuscité. Tu es vivant. Et Seigneur, je veux me détourner de mes péchés et aller vers toi. Et Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur pour que tu y entres, Seigneur, et que tu prennes le contrôle de ma vie. Seigneur, fais que dans ma vie maintenant, je cherche à te glorifier, à te bénir, à bénir les autres, et à partager la bonne nouvelle de ton salut, Seigneur. Et pendant que nous sommes en prière, si quelques-uns d'entre vous viennent de prier cette prière, je leur demanderai de lever la main. Je puisse vous encourager. Peut-être que vous sentez une résistance en votre cœur. C'est l'ennemi qui ne veut pas vous perdre. Mais le Père est là comme regardant le retour de, attendant le retour de son fils prodigue. Et le jour du salut, nous dit l'apôtre Paul, c'est aujourd'hui.
Us,
Recevez le Seigneur dans votre cœur. Seigneur, nous te remettons notre semaine. Que ta parole continue de travailler nos cœurs, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous invitons à rester, à partager la communion fraternelle autour d'une tasse de café, de thé, peut-être de biscuits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.